courbatures ces derniers temps, pas de douleur, pas de tout.
Des questions posées d'ordinaire chez un médecin. Et pourtant, nous sommes devant une usine PSA du nord de la France. Pour assurer la réouverture, l'entreprise a mis en place un protocole très strict.
Le déconfinement, c'est pour bientôt. Il va falloir retourner travailler ou continuer à travailler si on exerçait un métier indispensable à la nation, une activité essentielle. Après tout, il va falloir relancer l'économie, hein, vous savez bien. C'est bien beau les pandémies, mais faut travailler au bout d'un moment. Et pour vous mettre au travail, il y a des mots, des phrases toutes faites, des expressions qu'on entend beaucoup dans la bouche des responsables politiques et qu'on va prendre le temps d'interroger aujourd'hui. On va discuter de ça avec Laëlia Véron, que vous connaissez peut-être. C'est une linguiste qui travaille sur le langage comme enjeu de pouvoir.
Discours et pouvoir, langage et pouvoir. C'est bien, hein ? C'est assez vague pour que ça résume tout.
Ouais, c'est précis, c'est bien.
C'est ce qu'il dit sur Wikipédia, alors ça doit être vrai.
En Italie, ça a confiné sévère. Ils ont fermé les usines, abandonné les chantiers et ils ne comptent réouvrir les écoles qu'à partir de septembre. Au moins, c'est clair. Chez nous, c'est moins clair. On est pris entre plein d'injonctions contradictoires, des discours qui se superposent, s'entrechoquent parfois. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être d'essayer d'y voir un petit peu plus clair en décryptant les mots du pouvoir.
En fait, là, on a l'impression qu'on va avoir les mêmes débats habituels qui reviennent sur le travail, puisqu'on a déjà tout le discours du MEDEF en mode « faut travailler plus », le MEDEF et ses représentants libéraux, et certains qui disent non. Bon, bref, on a l'impression que c'est la même rengaine qui revient. Mais je pense que quand même, le coronavirus, à un moment, a posé cette question de « c'est quoi un travail essentiel, c'est quoi un travail nécessaire ?»
Travail essentiel, travail nécessaire.
Dans la cour de Bercy, à bord de sa toute petite voiture, son arrivée ne fait pas franchement ministérielle.
Vous allez bien ?
Mais oui, et vous ?
Ah oui, très bien.
Vous êtes chauffeur ?
Ah ben, il est en confinement.
À la fois pour des raisons matérielles, pratiques, aussi bien le maire que Pénicaud ont dû dire qu'il y avait un travail nécessaire, qu'il y avait un travail essentiel, parce que c'est celui-là qu'il fallait continuer à faire tourner et que pour le reste, eh ben, il fallait privilégier le fait de se confiner. Et en même temps, ils étaient incapables et ils ne voulaient pas non plus dire, ça ne va pas avec leur idéologie, quel était ce travail essentiel ?
Pour le gouvernement, la santé, c'est une priorité. Surtout celle des entreprises. Et j'ai découvert que j'avais un don d'imitateur. Muriel Pénicaud. Faut travailler, faut travailler, faut travailler.
Quelque chose qui montrait bien, à mon avis, leur embarras, c'est quand Bruno Le Maire a pris l'exemple, pour justifier le fait de ne pas lister des professions essentielles, a pris l'exemple de la brique de lait.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?
En disant quelque chose de vrai, qu'il y a une interdépendance des métiers, qu'il faut produire la brique de lait, qu'il faut ensuite la transporter, qu'il faut la mettre en rayon, qu'il faut la vendre, et que du coup, un métier en entraîne un autre. Je sais pas, par exemple, il n'a pas pris un exemple de happiness manager où d'un coup, on n'entend plus tout parler de la production de travail type Startup Nation, qui est quand même celle qui vend d'habitude. Et d'un coup, c'est plus du tout celle-là qu'on prend comme exemple pour nous expliquer comment le travail fonctionne. Et ça, je trouve ça assez révélateur.
Notre demande, c'est parce que c'est la meilleure solution, c'est le confinement pour tous les salariés qui n'ont pas besoin d'aller au travail. Évidemment, les services publics font partie, et c'est bien qu'on le redise en cette circonstance, d'un élément essentiel dans notre pays. Et donc, nous exigeons partout des protections.
Bah, par exemple, Martinez, quand il y avait cette question de délimiter quel était le travail essentiel, Martinez a dit que les employés n'ont aucun problème. Ceux des salariés, les employés des secteurs de travail essentiel pourraient travailler tant que leur sécurité est garantie. Parce que lui, il assumait, c'était le choix contraire, de dresser les listes de ce qui relèverait d'un travail essentiel ou pas. Et il donnait un exemple qui était intéressant. Il donnait un exemple de la construction d'un missile en disant qu'il avait demandé à Bruno Le Maire à quoi servait ce missile en temps de coronavirus. Est-ce qu'il allait tirer justement sur le coronavirus? Et comme par hasard, c'est pas un exemple que Bruno Le Maire a pris parce qu'on veut pas se poser cette question-là. Et notamment, l'exemple que prenait Martinez, et c'est un exemple hyper important, c'est Amazon.
La Cour d'appel de Versailles maintient qu'Amazon doit procéder à l'évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie de Covid-19 en y associant les représentants du personnel. Elle demande aussi à Amazon de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses employés. En ça, elle confirme la décision en première instance. En attendant que ce soit fait, la Cour ordonne au géant américain de restreindre son activité, mais elle se montre plus souple que les juges de première instance qui avaient limité les ventes Amazon aux produits alimentaires, d'hygiène et médicaux.
Ils ont rusé dans un premier temps Amazon parce qu'ils ont rangé dans essentiel plein de trucs qui n'avaient rien à y foutre.
en disant on continue, et leur communication c'était ça, c'est de dire on continue à assurer le service parce qu'on assure plein de biens essentiels qu'on livre partout en France, et en fait il aura suffi à eux d'appeler essentiel plein de trucs qui avaient pas lieu de, enfin qui étaient pas en tout cas essentiels dans le sens où nous on l'aurait entendu dans un premier temps, et ils ont utilisé ça dans leur communication.
Nous avons besoin de retrouver l'activité et de reprendre le travail. Et je le dis pas simplement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales, pour des raisons humaines. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui attendent de pouvoir reprendre le travail dans des conditions de sécurité sanitaire totale. Mais nous sommes un peuple qui travaille.
Travaille.
Qu'est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est justement ce qui est nécessaire au fait de combler des besoins, c'est le travail comme valeur d'usage. Je vais ressortir les bonnes définitions marxistes, c'est pas toi qui vas le dire, non? Donc, c'est ce qui va, justement, la production qui va servir à combler des besoins qui peuvent être variés, c'est ça, le travail comme valeur d'usage. Ou on peut aussi penser le travail comme production de survaleur, de profit, notamment pour le capitaliste. Et là, Amazon, on voit bien qu'en réalité, ce qui comptait, c'était de faire du profit à tout prix, quelles que soient, justement, les choses qu'on livre.
Et produire de la survaleur, ça peut être essentiel, notamment dans la compétition internationale. C'est pour ça qu'on s'imagine que l'aéronautique, les armes, les missiles dont parlait Martinez, c'est un secteur essentiel de l'industrie française. Parce que si on n'a plus ça, on n'est pas bien.
C'est aussi toute l'ambiguïté quand il dit nécessaire à la nation.
La nation.
Et c'est quelque chose qui est tout le temps revenu en mode nécessaire à la nation, nécessaire à la nation. C'est comme quand le maire faisait des grandes déclarations. Nous sommes un peuple qui aime le travail, qui trouve sa dignité dans le travail.
Nous sommes un peuple qui travaille, qui aime le travail et qui trouve sa dignité dans le travail.
Ça, c'est des formules très générales qui empêchent de se poser la question des disparités, au fait. Déjà, on est un peuple qui aime le travail. Qui sont les peuples qui n'aiment pas le travail, à part jouer sur notre instinct chauvin, je vois pas trop ce que ça veut dire. Et puis, au fait, sans doute, il y a des gens qui aiment le travail, qui trouvent leur dignité dans le travail, mais pas tout le monde. Et faire des formules générales comme ça, ça évite de se poser la question. Et c'est pareil, quand tu dis... essentiel, indispensable à la nation, ça fait un pseudo-truc englobant et unifiant, alors qu'à l'intérieur de cette nation, il y a des choses qui vont sans doute profiter à certains, un travail qui va être essentiel pour certains et pas pour d'autres. Qu'est-ce qu'on appelle essentiel à la nation ? Est-ce qu'on appelle... Justement, c'est aussi le problème de toutes des formules très abstraites comme l'économie française.
L'économie française.
Quand on dit l'économie française... Eh ben, ça peut vouloir dire quelque chose qui profite à certains et pas du tout à d'autres.
Très souvent, vous noterez que Bruno Le Maire ou Pénicaud, etc., quand ils parlent de l'économie française, le plus souvent, ils veulent dire le capitalisme français.
Qu'est-ce qui est essentiel pour une collectivité ? Encore une fois, parce qu'il peut y avoir... C'est quelque chose qui a été étudié par des sociologues. Là, je pensais à Cheyenne qui a fait un bouquin sur les besoins, mais en disant que les besoins de base, au fait, physiologiques, ils sont très très petits. Hein, certains, un peu de quoi boire, de quoi manger, avoir un minimum de chaleur, et que sinon, ce qu'on appelle des besoins, ça se redéfinit historiquement, politiquement, collectivement. Et en fait, c'est une question super importante.
On peut prendre un exemple.
Un exemple concret pour moi, c'est la question, par exemple, de l'éducation et des médias. Tu vois, d'un point de vue physiologique, on peut dire qu'on n'en a pas besoin. Pour la survie proprement physiologique, après, on peut considérer que, justement, ce qui est essentiel à une collectivité, ça va au-delà de la survie physiologique, que c'est aussi, on va dire, une sorte de survie ou de continuité morale, et que, par exemple, on pourrait dire que les médias, en tout cas certains médias, une culture médiatique, une présence médiatique, est essentielle à la nation.
Un exemple, les coiffeurs. Nous allons vite retrouver la Gaule chevelue si nous ne retrouvons pas les coiffeurs dans les meilleurs délais possibles. J'aime beaucoup la Gaule chevelue, mais j'aime beaucoup aussi les coiffeurs.
Est-ce que l'État et l'autorité de l'État et l'État comme collectif a besoin, par exemple, d'une nation apprenante, soudée autour de son éducation nationale et de la continuité pédagogique qui serait finalement essentielle ?
Les mois de mai et de juin ne seront pas comme d'habitude. Le but ne sera pas de boucler les programmes coûte que coûte, ce sera de permettre à chaque élève de reprendre le chemin de l'école dans les meilleures conditions possibles. Qu'il y ait donc une nouvelle sociabilité, qu'on ait d'ailleurs un sens du collectif qui soit encore renforcé par ce que nous sommes en train de vivre et qui est difficile, et que personne ne se sente au bord du chemin.
Quand moi j'ai vu par exemple la réaction de Philippe Poutou qui disait...
Le message est clair, à partir du 11 mai, il faut reprendre. C'est la réouverture des écoles, les gamins vont revenir, se retrouver tous ensemble, prendre des risques pour eux-mêmes et prendre des risques pour le personnel enseignant et puis tous les adultes qui travaillent dans les écoles, les collèges et les lycées. Et on sent derrière assez clairement quand même le point de vue patronal. D'ailleurs, juste avant, il y avait les discours du MEDEF pour dire qu'il fallait recommencer à travailler. Donc, en fait, le seul problème qu'ils ont, c'est de relancer l'activité, c'est de remettre les gens au travail.
Et je suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça. Je pense que là, il y a des visions différentes du travail essentiel à la nation qui s'opposent. Certes, il y a les profits de certaines entreprises, mais qui sont pas que du 4 40 et du MEDEF, le besoin aussi que les salariés reviennent au travail. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement convaincus que c'est un travail essentiel à la nation, que l'éducation nationale soit présente, et pas juste d'ailleurs numériquement, parce que les profs n'ont pas arrêté de bosser, mais soit présente.
C'est pas pour rien qu'il y a des tensions entre, du coup, Blanquer et Macron en ce moment, et que Blanquer est toujours un peu à côté, précisément parce que cet ancien haut fonctionnaire de l'éducation nationale a aussi un cadre, des références qui lui font faire ce genre de choix, parfois sans consulter où en est le reste de l'équipe sur le déconfinement, parce que lui, il veut, voilà, que l'école reprenne. On sent bien que c'est pas seulement pour les patrons, quoi. On sent bien qu'il y a un truc pour lui, une nation qui marche, c'est une école qui marche.
Les modalités que nous définirons répondront à un impératif catégorique très clair. Nous avons besoin d'avoir des élèves au travail et que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale puissent travailler dans le respect absolu d'un protocole défini au niveau national et validé par les autorités sanitaires.
C'est vrai qu'à des moments, c'est tellement à contre-courant qu'on peut se demander s'il n'y a pas une vision opposée justement de qu'est-ce que c'est qu'un travail essentiel, et que s'il tient tellement à rouvrir les écoles, c'est peut-être pas aussi simple justement que c'est pour que les entreprises fassent du profit.
Avoir un travail.
Mais ça fait réfléchir sur ce que c'est le travail salarié, tu vois, parce que normalement, le travail salarié, c'est pas juste ça te donne droit à un salaire, c'est ça te donne droit à un statut. Et ça te donne droit à des droits qui vont avec, dont le droit de retrait. Et au fait, paradoxalement, ne pas travailler à des moments, avoir le droit de retrait, ne pas travailler quand ta santé est mise en danger, ça fait partie de ton statut de travailleur. La notion de travail, là-dedans, est plus liée juste au fait de produire une tâche, et plus juste liée à la tâche, à l'acte de production, mais à un statut.
Il existe bel et bien un lien de subordination entre la société Uber et l'un de ses chauffeurs. La plus haute juridiction judiciaire française a tranché. D'autres chauffeurs Uber pourraient être tentés de demander la requalification de leur contrat de travail. Et pour les salariés de l'entreprise, ce serait alors le code du travail en vigueur en France qui s'appliquerait. Concrètement, avec un contrat de travail, les chauffeurs pourraient faire valoir de nouveaux droits, congés payés, mutuels ou encore indemnités de licenciement.
La crise, elle a aussi montré à quel point le travail, quand il est lié à la tâche, et quand le statut de travailleur ou de travailleuse, quand il est lié à la tâche et quand il n'est plus lié à un statut avec les droits qui vont avec, pour le coup, il va devenir très compliqué en ces temps de crise.
Je voulais faire peut-être le lien avec une expression populaire que les gens connaissent sans doute, c'est le fameux « on n'est pas aux pièces ». On n'est pas aux pièces, ça veut dire « on n'est pas payé à la pièce ». C'est-à-dire on va pas se tuer.
Ah, c'est mais ça oui, mais oui. Putain, c'est toi qui m'apprends une expression linguistique. On n'est pas aux pièces, donc on n'est pas obligé de se presser à fond parce qu'on n'est pas, du coup, avec l'arnaque de « si tu n'en produis pas tant ». Ah !
Quand il y a plein d'activités, par exemple, un livreur, un chauffeur Uber, il est aux pièces, hein, il est à la course, machin. Donc, quand il y a plein d'activités, c'est formidable. Mais s'il n'y a plus d'activités, et ben là, il se retrouve pas payé. Et là, on voit que cette fragilité dans les statuts qui ne pose pas de problème tant que tout va bien. Ça ne pose
Exactement,
pas de problème quand l'activité est bonne, quand le secteur est porteur. Ça ne pose pas de problème quand on est en bonne santé, quand on est jeune. Voilà, il y a plein de situations dans lesquelles ça ne pose pas de problème. Et puis, sauf que ça ne dure pas.
L'utilité sociale.
Joanne Chapoutot, dans une tribune dans Libé, disait que, étonnamment, l'utilité sociale des traders et de chaque métier était inversement proportionnelle au salaire. Plus t'es utile, moins t'es payé. Moins t'es utile, plus tu es payé. Donc il opposait lui aussi. Alors lui, il était encore plus rosse parce qu'il utilisait Sibeth Ndiaye. En disant Sibeth Ndiaye, elle est payée 9000 euros par mois.
Sans doute que Sibeth Ndiaye, elle est utile à certaines personnes. Sinon, elle ne serait pas là. Ne serait-ce que pour remplir le vide de la politique du gouvernement. Ça doit être utile d'avoir quelqu'un qui parle et qui dit des bêtises et qui du coup se prend ça dans la figure.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Ask PPG. Cette semaine, je suis accompagnée de Muriel Pénicaud, qui est ministre en charge du travail.
Vous travaillez.
Si on file moi, ce que j'avais proposé, c'est en effet, quand vous entendez Bruno Le Maire ou voilà, vous parlez de l'économie française, de remplacer ça par le capitalisme français, de dire que les bons salaires sont accordés à ceux qui ont des places importantes dans le capitalisme français et pas dans l'économie.
L'économie.
L'économie, c'est un terme qui est abstrait et qui nous laisse penser que ça nous concerne tout le monde au même chef. Alors que si on dit le capitalisme, on pense les capitalistes et les autres. Ceux qui vont justement avec le capitalisme, ça nous fait quand même souvent penser à la notion d'exploitation, à la notion au moins, même si t'es pas très marxiste, de salaires différents, des grands capitalistes, des grands patrons. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout de suite une notion de hiérarchie, d'inégalité, de différents statuts. Et donc, ça brise cette illusion de le travail, l'économie, comme si c'était la même chose pour tout le monde, alors que c'est pas le cas. Souvent, en linguistique, on fait, pour dire qu'il y a des visions du monde différentes, on va dire un mot contre un autre. L'exemple type, c'est cotisation sociale et charge sociale, parce que le mot cotisation et charge n'ont pas la même connotation. Mais aussi, les débats de langue, qui sont des débats politiques et des débats de vision du monde, c'est autour d'un même mot. Et autour du mot travail, je pense que c'est hyper important, parce que c'est aussi une lutte politique de pas laisser croire que il y aurait que, en gros, les capitalistes qui voudraient travailler et que les autres seraient des fainéants. Pendant longtemps, l'opposition qui a été construite historiquement par le mouvement ouvrier, ça a été d'ailleurs justement l'ouvrier qui bosse contre le patron fainéant. Et là, on voit que là où le capitalisme arrive pas mal à renverser cette opposition, à nous dire, tu vois, le capitaliste qui se rend les manches, c'est plus en tout qui va faire...
L'entrepreneur,
le capitalisme, la figure du capitalisme maintenant, c'est le jeune entrepreneur dynamique. Et ça, je pense que perdre le mot travail, c'est perdre une bataille qui est importante. On parlait, et on peut remonter ça à loin, hein. Tu parlais un moment, quand on discutait, tu parlais de la loi travail. Déjà, appeler ça la loi travail, c'est une énorme arnaque. Une loi qui cassait le code du travail, qui s'appelait la loi travail, on voyait bien que là, il y avait une bataille pour s'approprier le mot. Et forcément, nous, ça nous met dans une position où, tu le disais, dans les manifs, il y avait des panneaux « ni loi, ni travail ». Et là, ils gagnent aussi quand ils nous font arriver à dire qu'on ne veut pas du travail. Parce que la question, c'est quel travail ?
Les capitalistes vont jusqu'à dire que leur argent travaille.
Ah, c'est ça, c'est fou, ça. Oui, oui, l'argent qui travaille tout seul. Mais ça, c'est, ça fait très Marx et fétichisme de la marchandise.
C'est parce terrible, que, leur argent travaille. Comme si derrière, il n'y avait pas des gens qui faisaient en sorte que cet argent investi dans des entreprises, machin, transformé du coup en outils de
production. Mais tu sais, c'est comme la bourse. On a l'impression que ça marche tout seul, que justement, on n'a rien à y dire, rien à y décrypter. Et je pense que c'est faux. Et qu'il faut vraiment qu'on décrypte ça. Et que c'est vraiment une bataille politique importante.
À lundi prochain.